C'est France Bleu Midi Ensemble sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Quasiment midi 10 et jusqu'à 13h, nous sommes à Saint-Cyprien, commune de la Plaine du Forêt, à côté d'Andrézieux-Boutéan, de l'autre côté de la Loire par rapport à Andrézieux-Boutéan. Nous sommes avec le maire de Saint-Cyprien, Marc Archer. Nous sommes également avec vous en studio, Marc Archer. Maurice Moulin, bonjour.
Bonjour.
Rapprochez-vous du micro, bien. Maurice.
Oui, d'accord.
Président du comité des fêtes, on va parler avec vous de tout ce que fait le comité des fêtes à Saint-Cyprien d'ici quelques minutes. Mais d'abord, on va présenter cette commune de Saint-Cyprien. Combien d'habitants, monsieur le maire ?
2465 habitants au dernier chiffrage INSEE. Donc, c'est une petite commune par sa surface, 728 hectares. Aujourd'hui, les habitants de Saint-Cyprien s'appellent les Cypriennois.
Pourquoi vous précisez aujourd'hui ?
Parce que pendant très longtemps, ils se sont appelés les Tabots. Les Tabots, du nom du ruisseau qui coule à travers le village. Et encore aujourd'hui, les anciens se nomment les Tabots.
Et vous connaissez à peu près la date où ça a changé, le nom de...
Voilà, c'est ça. Hein, je crois que... Enfin, il y avait un... lorsque je suis arrivé à Saint-Cyprien, quand j'étais ado, quoi, mes parents habitaient une commune périphérique. Et il y avait un bar qui était sur la place de la commune et qui s'appelait Le Tabot.
Alors, d'accord. Et toujours, les anciens vous parlent de Tabot. C'est encore quelque chose qui est resté, quoi.
Tout à fait.
C'est marrant.
Le maire de Vauchette a pour habitude de me dire « Alors, mon Tabot, comment vas-tu ?»
Alors, c'est une commune donc habitée par 2465 Cypriennois. C'est une commune à côté d'Andrézieux-Boutéan, donc dans un secteur assez urbanisé, finalement.
Oui. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir, ça fera peut-être pas bien plaisir au maire d'Andrézieux-Boutéan, mais tant pis, c'est que Andrézieux-Boutéan était un quartier de Saint-Cyprien dans les années 1560. Le château de Boutéan, aujourd'hui, faisait partie de la commune de Saint-Cyprien. Donc c'est assez... Alors aujourd'hui, bien entendu, Andrézieux-Boutéan a pris une dimension... et urbaine et industrielle extrêmement importante. Et Saint-Cyprien est resté avec des valeurs ancrées dans une culture agricole.
Plus rurale.
Mais on est une commune qui est qualifiée de semi-rurale, semi-urbaine. C'est au choix.
Ça dépend comment
voilà,
se passe, c'est
exactement.
Ça.
Et autrement, c'est un fort ancrage forésien.
Et justement, les liens avec Andrézieux-Boutéan, parce que c'est une commune très forte, qui grossit beaucoup, qui a beaucoup de projets, son gros stade, son futur. Voilà, vous avez quel lien ? Vous travaillez main dans la main ? C'est pas forcément toujours compliqué parce que vous n'avez pas un développement identique. Comment vous le vivez ?
Je crois que c'est peut-être une mauvaise habitude, je sais pas. Hein, mais en tous les cas, on est beaucoup plus tourné vers le forêt que vers Andrézieux-Boutéan. C'est vrai que les liens sont, par exemple, beaucoup plus forts et beaucoup plus tenus avec Saint-Just-Saint-Rambert. Peut-être parce que, justement, on fait partie de la même communauté d'agglomération, mais c'est une réalité qu'il n'y a pas de contact direct entre... ne serait-ce que...
Il faut traverser la Loire.
C'est la frontière de la Loire. Mais il n'y a rien à faire. Hein.
Au niveau des transports en commun, la Stas s'arrête de l'autre côté du pont et c'est le Til qui prend le relais de l'autre côté.
Ça doit faire beaucoup de choses, finalement, dans le quotidien des habitants de Saint-Cyprien. Alors, c'est une ville, vous avez dit semi-rurale, semi-urbaine, ça dépend comment on se place, mais c'est une commune où il y a beaucoup d'agriculture quand même.
Alors, il y avait beaucoup d'agriculture. Aujourd'hui, il n'en reste un seul agriculteur sur la commune.
Un seul
agriculteur. C'est quelque chose où il y avait beaucoup de maraîchage parce qu'il y avait des terrains riches. On était dans ce qu'on appelle les chambons, c'est-à-dire ces terrains qui sont en bordure de Loire et où il y a des dépôts alluvionnaires tout au long des crues qui se déposent. C'est le revers de la médaille, si je puis dire. Ces terrains riches, mais qui... lorsqu'il y a de fortes précipitations, sont inondées.
Donc c'était une agriculture fragile.
Voilà. Alors, en même temps, une agriculture fragile, mais consolidée aussi par de grosses capacités d'irrigation avec le canal du Forêt. Donc, jusqu'aux années 60, il y avait des maraîchers qui montaient encore leur production par l'autocar. Vous voyez, je veux dire, on était encore sur un registre très très rural, quoi. Aujourd'hui, ça a complètement disparu. L'agriculteur qui est sur la commune, eh bien, il fait de la viande, des maïs. Je veux dire, on est sur quelque chose de très traditionnel après. Et il n'y a plus de véritable maraîchage. Il y a quelqu'un qui s'est installé en bord de Loire et qui essaye de faire du bio actuellement. Mais je crois que c'est compliqué pour lui. Quoi.
Alors justement, les bords de Loire, on en parle, on en rigole, et ça fait la frontière. Mais est-ce que vous les exploitez, ces bords de Loire?
Alors... Pas assez, pour des histoires financières, c'est très clair. On a ce qu'on appelle dans la plaine du Forêt des Gours, ces excavations où on a pendant des années retiré des granulats, du sable pour les constructions. Et lorsque ces carrières sont abandonnées, eh bien la capillarité fait qu'il y a l'eau qui revient par le fleuve Loire, et on a un gour qui s'appelle le gour des Véroniques chez nous, ouais. Pas à cause du prénom, mais à cause des fleurs qui y poussent. Et c'est vraiment très sympa, quoi. Enfin, je veux dire, c'est même bucolique. Il y a eu, dans les années 70-75, à la fin de l'exploitation, on a planté des arbres avec des peupliers d'Italie, et ça a été une erreur, parce que ces arbres ont une durée de vie maximum 45 ans, et il faudrait être On en a fait abattre une grande partie parce que c'était dangereux.
D'accord.
Et il faudrait replanter avec des essences qui sont des essences du forêt, des hêtres, des chênes, des frênes, bien entendu des seuls pleureurs, quoi, parce que c'est des essences qui tiennent bien, quoi.
Donc ça peut faire partie de vos projets à venir.
Mais il y a un projet actuellement je lâche pas au niveau du conseil départemental et de Loire-Forêt, bien entendu, pour essayer de valoriser ce site et d'en faire, de créer quelque chose autour d'un parcours de santé. Mais on est chaque fois confronté à des réalités financières, quoi.
Et quand c'est vrai, quand on a un joyeux comme ça, comme la Loire, c'est dommage de ne pas en profiter. Marc Archer, vous restez avec nous, bien entendu, jusqu'à 13h. Dans un instant, vous allez nous parler d'un site très particulier qui a été très, très important pour la commune et qui a trouvé une deuxième jeunesse. Ce sont les Forges de la Bec. On en parle dans moins de 5 minutes sur France Bleu Saint-Étienne.
Une très très mauvaise très mauvaise image en termes d'environnement, puisque en 2008 il y a eu un très gros incendie sur un site qui récupérait du bois, Vital Récupération, qui nous a amené au tribunal environnemental à Marseille, où on a été débouté de nos demandes parce qu'on s'était planté. Il faut être clair sur la défense. J'avais jamais fréquenté le pôle environnemental, et si j'étais allé, j'aurais pas du tout plaidé dans ce sens-là. On avait un autre, et ça c'était au début du mandat 2014, c'était écrit dans notre profession de foi. Un site industriel, les Forges de la Bec, le fleuron dans les années 80 de la forge et de l'estampage. Il travaillait beaucoup pour l'automobile, pour l'industrie lourde, les travaux publics, les choses comme ça. Et ce site, eh ben, est parti. Il y a eu jusqu'à 380 salariés quand même. Enfin, c'était quelque chose d'important. Ouais, hein. Et puis c'était une spécificité reconnue sur la place. C'est dépôt de bilan, tribunal d'instance en 99, dépôt de bilan. Ça a périclité jusqu'en 2003, et en 2003, ce site a été démantelé au niveau des machines-outils, des marteaux-pilons, etc., etc. Et au fil des années, ce site est devenu... Alors, il était pollué par rapport à l'industrie qui était là, hein, de la forge et de l'estampage, ça laisse, bien entendu,
des produits.
Ouais. Voilà. Et là-dessus, tout au long de ces années, malgré les barrières, il y a eu une surpollution qui s'est créée, où on voyait des artisans avec des plaques minéralogiques des départements environnants qui venaient déposer leur tôle d'éternite. On a trouvé des choses assez spectaculaires sur ce site. Il y avait un dossier de dépollution qui grandissait d'année en année. On était à un peu plus de 2 millions d'euros à un moment. Donc,
ça a monté.
C'était le premier gros chantier de mon mandat. Et j'avoue que je suis fier de ce que j'ai fait, puisqu'on a pu quand même, avec un contrat tripartite entre les PORA, l'établissement public l'Ouest Rhône-Alpes, qui est en charge la restructuration des friches industrielles, avec Loire-Forêt, et c'est là que tout prend tout sens au niveau de l'intercommunalité, parce qu'une commune comme nous, comment voulez-vous qu'on puisse gérer un billet de 2 millions d'euros pour la dépollution? Donc, ce site a été démantelé, les travaux viennent de se terminer en octobre dernier, et il y a un contrat avec la société Luxel, c'est une société française qui produit des sites clés en main de photovoltaïque avec des panneaux français. Et justement, j'ai tenu à, et je pense que c'est important de le préciser, il y a une clause dans ce marché qui fait que l'État est garant du recyclage de ces panneaux, parce que faut pas rêver, il y a du nickel, il y a du mercure dans les panneaux photovoltaïques, et ça risquait dans les années à venir de créer un nouveau phénomène de pollution. Donc aujourd'hui, dans cette signature de cette convention avec Luxel, on a la garantie, même si Luxel disparaît, que l'État se substituera pour la dépollution de ces de ce champ photovoltaïque.
Vous avez été échaudé et donc vous avez pris toutes les précautions, quoi.
Voilà, je crois qu'aujourd'hui, être maire, c'est aussi se voir dans une vision projective. Mon prédécesseur avait ce dossier sur les bras et il s'en était pas mal sorti, mais il fallait aller plus loin. Aujourd'hui, ce site est démantelé. C'est un crève-cœur pour tous les gens de Saint-Cyprien qui ont bossé où c'était après les 30 Glorieuses et où on était dans quelque chose. Il y a des gens qui ont passé leur vie professionnelle au même endroit. Donc, je comprends aussi que ça a été... j'aurais voulu le recycler en une pépinière d'entreprise ou créer un lieu même culturel. J'avais pensé à créer même un lieu de musique, vous voyez, comme il y a pu y avoir sur le Chambon-Feugerolles avec la Forge, mais le site était beaucoup trop pollué on prenait des risques et puis des risques financiers aussi, quoi, sur la dépollution.
Combien de panneaux sont installés?
Alors, donc, on avait un premier champ photovoltaïque de 20 hectares et sur le site des Forges de la Bègue, c'est un peu plus de 9 hectares. Donc on va être à pratiquement 30 hectares d'énergie propre.
Qui sert à la commune ?
Non. Vous savez, donc on est obligé de contractualiser avec des organismes qui revendent leur production à EDF.
D'accord, très bien. En tout cas, c'est une deuxième vie pour ce site et c'est déjà ça. On va parler de toute autre chose dans un instant. On va parler, puisque c'est l'heure, hein, on va se mettre à table autour du tilleul avec Juliane et Werner qui louent une belle maison dans le bourg de Saint-Cyprien. Et on va faire connaissance avec eux dans un instant sur France Bleu. Bleu Midi ensemble à Saint-Cyprien. Et jusqu'à 13h, nous sommes donc à Saint-Cyprien avec le maire Marc Archer. Nous allons maintenant nous arrêter dans un lieu de convivialité, dans un lieu gastronomique également. Ça s'appelle Au bord du tilleul. Nous avons Juliane en ligne. Bonjour Juliane.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue sur France Bleu Saint-Etienne. Avant de savoir un petit peu comment vous êtes arrivé dans cette aventure, j'aimerais que Marc Archer nous raconte un petit peu l'histoire de cette maison là où se situe ce restaurant.
Voilà, donc c'est quelque chose qui fait partie de l'ancienne équipe municipale dans laquelle j'étais déjà. Et il y avait une maison qui était en très mauvais état, qui était où il y avait de multiples héritiers. Ça n'a pas été simple, cette histoire. Mais une belle maison forésienne, la mairie a préempté avec le projet d'y installer justement une auberge et de remettre du lien social au sein de notre bourg. Aujourd'hui, autour du tilleul a pris une dimension extrêmement intéressante au niveau du de gastronomique. Quand on parle d'auberge, je crois que il faut juste parler autour du tilleul parce qu'on mange très bien.
Juliane, comment vous êtes arrivée dans cette auberge et comment vous avez créé autour du tilleul?
Alors, ça va faire 4 ans maintenant.
Oui.
Début décembre, on va fêter nos 4 ans. On arrive d'Irlande.
D'accord.
Le chef est sud-africain d'origine.
Oui.
Donc vous pouvez imaginer que dans ces assiettes, on retrouve des petites saveurs différentes de ce qu'on a l'habitude.
Oui.
Et voilà, donc écoutez, on est content de notre outil de travail, qui est vraiment un super restaurant.
Et justement, le mot auberge, vous, monsieur le maire disait, allez, c'est plus qu'une auberge, c'est un vrai resto, c'est gastronomique. Vous revendiquez ce mot d'auberge? Comment vous le sentez?
Non, je le revendique pas, mais ça me dérange pas non plus. C'est vrai que dans la région, auberge, ça fait penser à la cuisine vraiment traditionnelle du terroir, les grenouilles, les râpés. Mais avant ça, c'est un lieu convivial où on vient partager un bon repas entre amis. Et voilà, donc restaurant, auberge, moi, ça me dérange pas. Hein.
Peu importe.
Voilà, alors, peu importe.
Comment vous vous êtes retrouvé en Irlande, puis ensuite vous vous êtes retrouvé à Saint-Cyprien? Comment ça s'est passé?
On voulait s'installer, avoir notre propre restaurant. Du coup, on voulait rentrer en France, hein, parce que la pluie irlandaise nous ennuyait un peu. Et donc, on avait regardé un petit peu les auberges communales, justement, et puis il y en avait une à Saint-Cyprien. Donc, on a postulé, on a eu des entretiens, des rencontres avec la municipalité, et on a finalement été choisi parmi d'autres candidats.
Alors, quelles sont vos spécialités?
Alors, il n'y a pas vraiment de spécialité, c'est plus la cuisine de Werner, quoi, le chef qui est à part entière.
Par exemple, ce midi, on a quoi, là?
À midi, là, vous avez un velouté de topinambour avec un œuf poché, du magret de canard fumé, ou bien une terrine de bœuf à son pot-au-feu pour les entrées. Ouais. Pour les plats, du saumon cuit à l'unilatéral avec un petit gratin et une sauce bisque, ou de la langue de bœuf, sauce tomate, chorizo.
C'est pas mal.
Donc c'est quand même des produits qu'on connaît bien, quoi, mais c'est fait d'une façon différente.
Et la petite pointe sud-africaine, c'est quoi? C'est quoi cette cuisine? Qu'est-ce que vous apportez?
C'est dur à dire, c'est son style, sa façon d'apporter, des petites touches sucrées-salées peut-être, mélanger des ingrédients qu'on n'aurait pas l'habitude de mettre ensemble.
Des épices?
Des épices, oui. Sans que ça soit épicé, mais beaucoup de saveurs dans les plats.
Alors, autour du tilleul, pour la dernière question, pour un restaurant qui est rue des Mûriers.
France Bleu Midi Ensemble, sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Allez, quelques minutes encore à passer à Saint-Cyprien avec le maire Marc Archer et puis également le président du comité des fêtes Maurice Moulin qui est avec nous. Alors Maurice Moulin, on va faire connaissance avec ce qui fait vivre eh bien, en termes d'événements, de manifestations, cette commune de Saint-Cyprien. On va commencer d'ores et déjà par le plus gros événement de la commune.
Oui, merci, bonjour, merci de votre accueil. Eh bien, bien sûr, le plus gros événement, c'est les Nuits Celtiques. Et nous aurons le plaisir, en 2018, de faire le 19e festival des Nuits Celtiques.
Ça commence à être une belle histoire, là.
Voilà, c'est une longue histoire qui a été... on a commencé tout petit avec le Bagad de Rouen. Ouais. Une soirée avec peut-être 80 personnes. Et maintenant, nous en sommes sur deux jours à 1500 personnes.
Mais faire un festival autour de la musique celtique quand on est à Saint-Cyprien en plein cœur du forêt, loin de la Bretagne, c'était pas forcément évident à la base.
Ce n'est pas évident, mais sachez que pratiquement tous les groupes celtiques sont soit de la région Rhône-Alpes, soit du Tarn qui viennent. Et peu...
Pas d'Irlande et de...
Non, pas d'Irlande, parce que d'abord, ça nous coûterait beaucoup trop cher de les faire venir. Nous sommes quand même qu'un petit festival. Notre complexe sportif ne peut pas accueillir plus de 800 personnes par soirée.
Bon, en tout cas, ça, oui, mais c'est déjà pas mal. Ça dure depuis quasiment 20 ans. Oui. 2019, ça fera 20 ans. On pense déjà à cet anniversaire-là quand on organise un peu, ouais.
Bien sûr, j'y pense, parce qu'il faut toujours travailler un an à l'avance. Hein, exactement. Et bien sûr, le 20e anniversaire, j'espère faire quelque chose d'un peu plus gros.
Et on a les dates déjà pour la 19e édition?
Ça sera, cette année, c'est le 2018, 9 et 10 mars. En 2019, à peu près aux mêmes dates, hein, 8 et 9 mars, voilà.
Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être ensemble, d'écouter de la musique. Enfin, vraiment, c'est un moment extrêmement festif autour d'une musique conviviale.
C'est très festif. Et puis, alors, surtout, c'est ouvert à tout le monde. Dans la salle, tous les soirs, ce sont des enfants qui courent dans la salle, des personnes plus âgées. On a tous les publics. Nous avons, bien sûr, deux bars ouverts, open, dans la salle. Et nous avons, par soirée, deux groupes, le vendredi et le samedi, deux groupes par soirée.
Alors ça, c'est le festival des Nuits Celtiques, mais je suppose qu'il n'y a pas que ça en termes de manifestations, d'événements.
Alors, les grosses manifestations, ce sont donc les Nuits Celtiques, après la fête patronale qui dure 4 jours, Et
au mois de septembre.
Depuis 4 ans, nous avons organisé, sauf cette année à cause d'un petit problème de troupe, nous avons musique, saveur et musique du monde. Voilà, c'est chaque année un thème différent, Bavière, Russie, Caraïbes, voilà,
Italie. On a déjà le thème, alors on a le temps, mais celui de l'année prochaine, vous y avez déjà pensé ou non, c'est encore
non, pas encore, on vient de rater l'Italie.
Et 2500 habitants, ou 2000 moins que ça, 2000 habitants à
2465.
Bon, alors 2500, on arrondit, et on arrive à faire 4 jours de fête patronale.
Tout à fait, bien sûr. Mais la fête patronale, c'est des événements incontournables. Les gens viennent de Loire-Forêt. Mm-hmm. Et comme les Nuits Celtiques, nous avons dépassé les frontières du département, par contre.
D'accord.
Nous avons des personnes qui viennent de la région lyonnaise, etc., et d'autres départements.
Ça fait combien de temps que vous êtes président du comité des fêtes ?
Oh là là, ça fera 21 ans l'année prochaine.
D'accord. Sacré personnage aussi pour la vie de la commune, Marc Archer, le président du comité des fêtes.
Ah oui, c'est un grand timonier, hein, vous l'avez dit. C'est écrit.
Un merbis. C'est
ce qui est marqué sur le site internet.
Non, mais je crois que le comité des fêtes n'interfère pas dans la vie de la commune. Par contre, il y a une très grande proximité entre nous. On est là ensemble, mais en dehors de ça, on privilégie la vie associative, 20 associations à Saint-Cyprien. Il oublie un petit peu de dire quelque chose, le président du comité des fêtes. Parce qu'avec les Nuits Celtiques, il y a un repas avec 400 personnes. Et avec le thème, bien entendu, rattaché systématiquement à l'Irlande, à l'Écosse. Ben, je veux dire, on voit des bénévoles qui s'arrachent, au sens noble du terme, parce qu'on produit justement ce jour-là une vraie convivialité, un vrai lien social.
Et évidemment, c'est hyper important pour une commune, pour vivre, pour que les gens se connaissent, aient envie d'y être.
Mais c'est ça, quand vous dites 4 jours de fête patronale, en effet, c'est le moment, avec une paella géante le dimanche midi, avec chaque fois, des anecdotes à s'y cacher derrière, quoi. Je veux dire, on retrouve, c'est là que, je veux dire, toute le sens de la convivialité cypriennoise, qui n'est pas 20 mots dans Loire-Forêt. Lorsque vous parlez de Saint-Cyprien à Loire-Forêt, il y a une cave à la mairie qui était bien fréquentée. On a un peu levé le pied à ce niveau-là, mais c'était quelque chose qui était ancré, quoi. On finissait très souvent à la cave avec la fête patronale. Et d'autres maires de communes voisines connaissent bien la convivialité cypriennoise. Et ils sont présents, quoi. Je veux dire, on s'y trompe pas. Si vous voulez, moi, depuis que je suis maire, j'essaye justement d'inviter chaque fois des maires de communes différentes. Cette année, j'ai demandé à Hervé Reynaud de venir, le maire de Saint-Chamond, le maire de Roche-la-Molière m'a promis qu'il viendrait cette année. J'essaye justement à travers ça de créer un climat de convivialité.
Alors dans un instant, on va clôturer l'émission sur Saint-Cyprien, on va évoquer aussi le Téléthon qui a lieu ce week-end dans la commune, et puis on va parler aussi des projets que vous avez avec la commune de Saint-Cyprien dans un instant. À Saint-Cyprien, avec le maire Marc Archer qui est avec nous, avec Maurice Moulin aussi, le président du comité des fêtes qui est là. On va parler des projets à venir pour Saint-Cyprien. Vous êtes, vous l'avez dit, hein, chargé de la politique de la santé à Loire-Forêt, la communauté de communes Loire-Forêt. Et vous avez pu, en tant que maire, rencontrer la ministre de la Santé la semaine dernière à l'Élysée.
Tout à fait. J'ai eu l'honneur d'être invité par le président de la République avec 15 maires ligériens. Et en effet, j'ai pu dialoguer pendant plus de 10 minutes avec la ministre de la Santé et échanger sur des problématiques de santé, hein, sur la vaccination par exemple.
La désertification médicale aussi, parce que j'imagine que chez vous c'est quelque chose...
Alors la désertification médicale est une idée préconçue et qui réside dans les coins reculés. C'est faux. Ça existe aussi dans des communes moyennes, parce que aujourd'hui les médecins veulent s'installer dans le midi.
À Nice, allons-y.
Beaucoup. peu dans le Haut-Forêt ou dans des villes moyennes, parce qu'ils veulent avoir de la culture, ils veulent avoir des commodités, voilà. Donc, il arrive très régulièrement que Loire-Forêt se penche sur la question de l'installation de médecins sur parce que ça va être un problème.
Et vous, sur Saint-Cyprien ?
Non, sur Saint-Cyprien, justement, les médecins ont su réagir parce que avant ils étaient installés dans les locaux municipaux. On voulait créer un pôle médical et puis bon, pour des diverses raisons, ça s'est pas fait. Aujourd'hui, ils sont installés chez eux dans un bâtiment. Ils ont acheté des locaux et on a deux médecins installés sur Saint-Cyprien qui marchent très fort, quoi.
Alors, en termes de projet, vous avez quoi pour la commune ?
En termes de projet, là, il y a une requalification complète du complexe polyvalent, puisqu'il y avait installé dans ces locaux des services techniques. On vient d'acheter des locaux neufs dans une zone industrielle. Et on y a installé, dans ces mêmes locaux, l'idée de rationalisation des coûts, de mutualisation, le service le syndicat mixte du Bonson, qui est le fermier qui produit l'eau et qui distribue l'eau potable sur Saint-Cyprien. Voilà, donc la requalification du complexe polyvalent, c'est redonner un véritable cœur du village au niveau des actions culturelles, des actions sportives. Cette année, 2018, va avoir la Biennale de la peinture. On a essayé de créer un concept et on va le faire en commun avec la commune de Roche-la-Molière sur du street art, sur des choses très sur l'art moderne. Enfin, je veux dire, c'est de l'art moderne à aujourd'hui et le street art.
Et pour terminer, il y a le Téléthon chez vous ce week-end.
Voilà. Alors là, c'est toute la générosité des Cypriennois qui est là. Le 2 décembre, ça commence à 8h du matin et ça va finir tard dans la nuit.
Avec différentes animations, je suppose.
Oui, et puis surtout, l'ensemble des associations cypriennoises qui sont là. Le comité des fêtes, bien entendu, le Sou des écoles, les Primes Verts. Il ne faut pas surtout que j'en oublie, les Lucioles s'allument, l'école primaire. L'Union des commerçants, l'Ambou l'Amical, les Saint-Cyprien Runner,
Il y a toutes les associations de la commune, quoi.
Tout à fait. Très bien. Et avec une multitude d'activités.
Merci. C'est donc à partir de 8h.
8h.
Le matin, samedi.
Avec une soirée avec Carburo Jack à partir de 20h30.
Très bien. Et c'est tout ceci pour le Téléthon. Merci beaucoup, Marc Archer, maire de Saint-Cyprien. Merci beaucoup, Maurice Moulin, président du comité des fêtes de la commune.